passer des terrines, des... Coucou, vous êtes bien sur 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, le 15 mai de cet an de grâce 2020. Et nous voudrions vous mettre en garde de bien rester, d'être attentif aux gestes que nous devons faire. Nous avons été privés de nos enfants, de nos petits-enfants. Bref, ne sautez pas dans les bras, c'est pour vous que l'on vous demande de faire ça et c'est pour eux également. Donc le déconfinage, puisque c'est un nouveau mot que l'on utilise, eh bien, doit nous permettre d'être raisonnables et d'être raisonnés. Donc soyons vigilants pour nous, pour les autres. Et cette période inédite que nous avons vécue, ne portons pas valeur de jugement auprès de qui que ce soit. Je crois que personne n'était préparé à ce genre de choses. Et très sincèrement, nous n'en serions pas là si la Chine ne nous avait pas embobiné et raconté des mensonges dès le départ. Donc voilà, c'est dit, je le dis, je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser, je ne suis pas le seul à le dire. Donc bonjour à toutes et à tous, nous vous espérons en bonne santé, en pleine forme. Pour ceux qui sont patraques, qui sont malades, eh bien, vous savez que nous compatissons et que cette radio de l'Entre-deux-Mers, eh bien, est une radio qui pense à ses auditeurs, et nous pensons à tous les auditeurs qui nous écoutent. Eh bien voilà, nous allons vivre une heure dans l'émission C'est beau, c'est bon, avec une personnalité, Lucien Gergelin, que vous connaissez certainement parce que vous avez dû trouver quelque part, partout d'ailleurs, eh bien, son produit, ses produits. Lucien Gergelin est à Virazeil, à côté de Marmande, dans le 47, donc dans le Lot-et-Garonne. Mais c'est à la frontière du 33, c'est entre Marmande et Casteljaloux, en fait.
Oui, Bergerac.
Bergerac, mmh. Voilà. Donc, capitale de la confiture. Lucien Gergelin est le numéro 2 en volume en France de la confiture. Mais il est le numéro 1 de la qualité. Et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, nous avons également... Lucien prendra la parole tout à l'heure. Il va s'exprimer et vous raconter et vous narrer son histoire. Une success story tout à fait exceptionnelle. Et c'est un homme... je n'ai pas de mots pour le décrire tellement c'est un homme exceptionnel. Perlo Valéry, je suis en face de vous. Vous Bonjour. Avez les yeux revolvers. Elle a tiré la première. Elle nous vient de Podensac. Et elle travaille dans une maison de soins et de retraite à Podensac, ce qu'on appelle un EHPAD, en fait.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, j'aimerais vous donner la parole, parce que nous savons que les EHPAD, pendant cette dure période, eh bien, c'est compliqué, ça n'est pas simple, ça n'est pas évident. Sans trahir de secret, nous allons échanger, discuter, vous poser des questions, et puis nous raconter votre quotidien dans ces EHPAD, et saluer tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent dans ces lieux, je dirais, de voies de garage quelque part, ça n'est pas méchant, mais c'est tout simplement la dernière habitation pour certaines personnes. Et heureusement que ces EHPAD existent, parce que je suis concerné, moi aussi personnellement, par ma maman, qui devrait rentrer prochainement dans un EHPAD en Franche-Comté. Et nous savons ce que c'est que ce déchirement, puisqu'aujourd'hui on privilégie et on aide les gens à rester chez eux le plus longtemps possible pour ne pas les désociabiliser, mais il arrive un moment où certaines pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, dont ma maman est atteinte, à 92 ans, eh bien, nous ne sommes plus, nous les enfants, habilités. C'est un vrai métier à la surveiller, à faire attention à tout ce qu'elle fait bien, tout ce qu'elle fait mal, mais surtout toutes les bêtises qu'elle est capable de faire. Ça n'est plus la maman que j'ai connue, donc j'aimerais savoir un petit peu, de vivre dans un EHPAD au quotidien, ça n'est pas... Je dirais que c'est une passion, la passion de la gériatrie, la passion de la vieillesse que nous qualifions pour nous comme étant une maladie. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est un cycle de la vie. Et j'aimerais savoir si cette période que nous venons de traverser, d'épisode inédit, a été compliquée pour vous à Podensac et en règle générale dans les EHPAD, en fait, parce que ce que vous vivez, c'est au quotidien déjà des choses pas simples, pas évidentes. Mais avec cet épisode, je dirais, de Covid-19, eh bien, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quelles mesures avez-vous prises et comment vous vous en sortez à Podensac? Et on salue tout le personnel, tous les collaborateurs de cette brillante équipe qui a traversé des moments difficiles.
Alors oui, vraiment, je tiens à saluer l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Podensac qui a fourni pendant ces deux derniers mois un travail remarquable. Comme tout au long de l'année, hein, sans parler du
Bien
Covid,
sûr.
Mais en cette période encore plus. L'équipe a su se mobiliser, s'adapter et vraiment faire preuve de réactivité et d'une implication comme on ne peut imaginer. très vite, les EHPAD ont dû fermer leurs portes. Il faut savoir que toutes les mesures qui ont été prises, elles visent la protection de nos aînés. Et parfois, elles peuvent poser questions, puisqu'on sait qu'on est dans un état un peu particulier, où parfois on peut se poser des questions sur la liberté. Mais vraiment, il faut vraiment avoir à l'esprit que toutes les mesures qui ont été prises, c'était pour protéger ce public dit fragile et éviter que le virus ne pénètre dans l'établissement.
Tout en vous protégeant, vous également aussi.
Exactement.
Même si vous n'êtes pas âgé, puisque ce virus ne sélectionne pas que les personnes à risque.
Non. Et donc, le personnel a très bien et très vite réagi. Donc, il a fallu modifier les organisations en fonction. Et puisque ce que le personnel a très bien fait, c'est qu'ils ont tout à fait eu conscience des conséquences que pouvait avoir l'arrêt des visites des familles auprès des résidents, hein, pour qui ce lien avec l'extérieur, ce lien familial, cette présence au quotidien est quand même d'un grand réconfort. Et là, l'équipe a su se mobiliser. Ils ont vraiment déployé, ils ont été ingénieux, ils ont fait évoluer leurs pratiques. D'ordinaire, c'est vrai que c'est très tourné vers le soin. On manque de temps pour pouvoir assurer l'animation comme on le voudrait. Et là, ils ont réorganisé leur quotidien et ils ont vraiment essayé de faire en sorte que les résidents ne ressentent pas trop l'absence de leur famille en augmentant les activités qu'on pouvait leur proposer, en augmentant le temps de présence.
Le style d'activité ?
Alors, nous, on a la chance, comme on est un gros EHPAD, on est un EHPAD...
Combien de personnes sont concernées ? Donc, combien de personnes vivent dans cet EHPAD ? Je ne parle pas des collaborateurs, mais uniquement des personnes qui sont logées là-bas.
Alors, nous, on fait partie des plus gros EHPAD de Gironde, hein, puisque l'établissement contient 273 lits.
Combien ?
273 lits.
Waouh ! 273 lits.
Oui, qui se décomposent. Donc, 223 lits d'EHPAD. Une maison de retraite classique, vous les connaissez. On a également un secteur sanitaire qui contient 36 lits d'unités de soins longue durée. Donc là, on va accueillir des personnes âgées dites polypathologiques qui nécessitent plus de soins techniques, une présence médicale renforcée par rapport à un EHPAD classique.
Des personnes qui ont des pathologies lourdes, Alzheimer...
Alors, pas forcément Alzheimer, on est vraiment plus sur des problèmes de santé. Ça peut être les conséquences de la vieillesse assorties d'une problématique d'un cancer, des fins de vie, voilà, des choses vraiment sur le plan médical qui est beaucoup
200,
plus difficile.
273 lits.
Oui.
Combien de personnes pour s'occuper de cet EHPAD de 273 lits ?
En tout, il y a à peu près en moyenne, il y a 210 agents.
210 agents. Voilà. Vous, quelles sont vos fonctions, puisque vous travaillez, vous êtes fonctionnaire en fait ?
Oui, l'EHPAD de Pau-d'Ansac est c'est un établissement public de santé.
D'accord. Votre fonction donc à l'intérieur de cet EHPAD, mademoiselle ?
Alors, je suis la directrice déléguée. Directrice déléguée parce que l'établissement est autonome, mais il est rattaché en direction commune avec l'établissement, le centre hospitalier du Sud-Gironde, le centre hospitalier de Cadillac, le pôle médico-social de Montségur et le centre hospitalier de Bazas.
D'accord.
Voilà, donc moi j'assure, j'ai la responsabilité, le directeur, donc Monsieur Faugerolas.
Nous saluons, Monsieur Faugerolas. Bonjour monsieur. Voilà. Merci de nous avoir envoyé Valérie, c'est important parce que pendant cette période, on sait ce que c'est que la non-présence d'une personne pendant une heure ou deux, c'est compliqué aussi. Ouais. Merci monsieur le directeur.
Merci. Donc voilà, moi j'ai en charge l'EHPAD de Pau-d'Ansac et je suis également chargée de la coordination de la filière gériatrique sur le territoire du Sud-Gironde. Donc je suis en étroite relation avec mes collègues de Montségur et de Bazas que j'ai cités, les EHPAD aussi de Langon et de l'Aréole. Et puis ça c'est les EHPAD publics du territoire. Et puis j'anime aussi des réunions, on développe des projets, donc on en est au tout début, avec les EHPAD publics et privés du territoire du Sud-Gironde.
D'accord. Donc au moment de l'arrivée, je dirais, des décrets qui ont été signés au niveau de nos autorités compétentes, est-ce que votre EHPAD était complet, les 273 lits occupés ?
Oui, on était un EHPAD complet. Donc il a tout de suite fallu communiquer auprès des familles et des résidents sur cette fermeture d'établissement. Et très vite, avec les cadres, comme je suis un gros établissement, enfin, je dirige un gros établissement, j'ai la chance d'avoir 4 cadres de santé qui sont des maillons vraiment importants dans l'organisation des EHPAD. Donc avec les cadres de santé et l'équipe médicale, je veux vraiment saluer ces personnes-là qui m'ont accompagnée durant ces 2 mois et avec qui on a fait vraiment un beau travail. Enfin, moi, je suis très fière du travail qu'on a réalisé au cours de ces deux derniers mois pour l'ensemble des équipes.
Je voudrais souligner une chose. On a dit 273 lits, c'est-à-dire 273 patients, mais plus de 200 personnels, le mot ne me plaît pas, collaborateurs.
Oui.
C'est-à-dire c'est presque un collaborateur par nombre de lits. C'est 0,9, quoi, en gros.
Oui, un peu moins. Alors là, c'est vraiment tout service confondu.
Oui, parce j'entends bien.
Voilà. Donc on a un service administratif, on a aussi la blanchisserie en interne, on a la cuisine, c'est un point très, très important. Les ateliers, les services maintenance
bien
pour
sûr.
Assurer le fonctionnement, la maintenance du bâtiment. On a une pharmacie à usage interne.
Vous êtes une petite ville ?
On est une petite ville.
Vous êtes autonome ?
Tout à fait.
Vous vivez en autarcie ?
On a pu. Voilà, on l'a expérimenté.
Valérie, nous vous écoutons.
Voilà, donc c'est deux mois. Donc je disais très vite, l'équipe s'est mobilisée pour développer tout le pan social et les activités auprès des résidents pour éviter l'isolement, pour éviter qu'ils se retrouvent seuls, un peu désespérés dans leur chambre, à déprimer parce qu'ils ne pouvaient pas voir leur famille. Donc l'encadrement a accompagné les équipes pour ça. On a la chance d'avoir deux animateurs qui ont été là aussi remarquables et qui se sont mobilisés à 200%. Une équipe aussi de deux psychologues, une diététicienne également. Et là, tout le monde a vraiment joué le jeu et a développé des animations. Alors, quelque chose qui ne se pratiquait pas à Podensac, qu'on a développé et qui a permis de rétablir un lien, alors pas physique, mais en visio, hein. On a développé le Skype. Ça n'existait pas dans l'établissement. Et là, on a mis toute une organisation pour que les résidents qui le souhaitaient, les familles qui pouvaient, puisse avoir chaque semaine des rencontres par Skype.
Alors Skype, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça existe encore. Enfin, ce n'est pas une tare de ne pas savoir ce que c'est que Skype. C'est un téléphone avec la vidéo, en fait, ce qui permet de pouvoir téléphoner à quelqu'un qui a un téléphone moderne ou une tablette ou un ordinateur, de pouvoir communiquer. C'est gratuit, je crois.
Oui.
Il n'y a rien à payer, ni celui qui émet, ni celui qui reçoit, et d'avoir la personne de visu, de face, en direct, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans sa salle de bain, peu importe. Où que vous soyez, vous pouvez utiliser Skype. Donc ça permet à ces personnes âgées, qui certes n'étaient pas habituées à ce type de communication, de découvrir et de comprendre ce qui se passe réellement.
Oui, ça nous a permis de voir que lorsqu'on proposait des nouvelles technologies, les personnes âgées, elles arrivaient à s'en saisir. L'expérience Skype se poursuit et continuera. J'espère qu'on reprendra une vie normale et j'espère que cette reprise soit le plus rapide possible. Donc il y a eu Skype, il y a eu aussi, on développait, ça faisait partie des projets avant le Covid, mais ça s'est accéléré, avec Familéo. Donc Familéo, c'est en deux mots, on en voit de plus en plus la publicité à la télé. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu.
Ça me dit quelque chose, oui.
Donc Familéo, moi je dis, alors vraiment, pour être synthétique, c'est un peu le réseau social dédié à la famille, aux familles.
D'accord.
Donc en fait, il suffit de s'inscrire, on a un code, les familles téléchargent l'application Familéo, on reçoit leur code, et chaque semaine, elles publient, donc elles postent leurs photos, des petits commentaires pour leurs proches. Et nous, au niveau de l'EHPAD, on récupère et on imprime les gazettes qui sont issues. En fait, cette gazette compile les photos des familles qui sont inscrites. Et le résident remet au résident, même propre, ces gazettes-là. Donc, ils reçoivent le petit journal de leur famille. Ça aussi, ça a été très chouette. Sur les 270 résidents, il y a entre 50 et 70 familles qui se sont inscrites et qui publient régulièrement. Donc, chaque semaine, on remettait cette gazette aux résidents. Et ça nous permet aussi de diffuser des photos, des petits commentaires sur la vie, et soit des résidents, soit de la vie de l'établissement. Voilà. Donc ça a été aussi un outil intéressant de communication. Et ça a fait vraiment des heureux, parce que les résidents, ils pouvaient voir que leurs proches allaient bien. Ils recevaient
bien
des
sûr.
Photos, ils avaient des mots de tendresse et d'attention qui leur étaient portés.
C'est
mais
important.
Ça les rassurait aussi, parce qu'ils pouvaient voir que leurs proches allaient bien. Et ça, c'est important.
C'est important qu'ils puissent continuer, qu'il y ait ce fil d'Ariane, en fait.
Tout à fait.
Entre la famille proche, les enfants, les petits-enfants, les tontons, les cousins, et puis ces personnes qui sont un petit peu, quelque part, isolées. Non pas isolées dans un EHPAD, parce que dans un EHPAD, il faut le savoir, les résidents sont choyés, il faut se enlever cette idée générale de l'EHPAD comme étant quelque chose de négatif. Mais heureusement que nous sommes en France, heureusement que nous avons ces structures avec des collaboratrices et collaborateurs qui sont bourrés d'amour pour cette catégorie de personnes qui sont âgés, qui sont quelquefois malades, qui sont quelquefois perdus, qui sont quelquefois dans leur monde, qui sont quelquefois ailleurs, mais qui sont de temps en temps aussi conscients de ce qui se passe. Et je dois dire que c'est un véritable engagement de dire « je vais travailler dans un EHPAD ». On dit un ou une ?
Un établissement.
Un établissement, oui. Donc excusez-moi que je ne fasse pas de faute de français. Donc un EHPAD, un établissement, et ça c'est très important. Donc ce que l'on voulait dire, c'est qu'à Podensac, donc, c'est un des plus grands du département ou de la région ?
Le département, je pense qu'on est le deuxième, puisqu'il y a un établissement à Bordeaux qui a une grande capacité d'accueil, même plus importante que la nôtre. Mais hors Bordeaux, oui, on doit être le plus grand.
D'accord. Et comment avez-vous procédé pour expliquer, parce que je ne pense pas qu'il y a eu une explication générale, il a fallu prendre en fonction des cas, des pathologies, de ce que l'on peut dire, ne pas savoir ce que l'on peut dire, ne pas dire à une certaine catégorie de personnes. Comment avez-vous annoncé cette histoire de virus, d'être obligé de ne plus recevoir de personnes, de visites, d'être un petit peu, non pas prisonnier, parce que le mot est trop fort, mais d'être un petit peu confiné comme nous l'avons tous été?
Donc on s'appuie beaucoup, c'est vraiment une organisation pyramidale, moi je m'appuie beaucoup sur l'équipe de cadre qui elle-même s'appuie sur les infirmières et sur les aides-soignantes. Donc il y a eu ce message qui est descendant, où il a fallu expliquer la situation telle qu'elle était. Il y avait cette épidémie et pour les protéger, les pattes devaient être fermées. Donc les équipes, après, qui connaissent très bien les résidents, ont pu vraiment adapter le discours.
Faire de la carte et non pas du menu.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis on a aussi l'habitude de communiquer par courrier. On a aussi l'instance, c'est des notes qu'on adresse et qu'on affiche dans chaque unité. Et puis il y a une instance qui est très importante dans les EHPAD, c'est le Conseil de la vie sociale, où sont élus des représentants des résidents et des représentants aussi de leur famille. Et donc là, moi, je m'adressais, avec les mesures barrières, on prenait beaucoup de précautions, au président du Conseil de la vie sociale, qui est un résident de l'établissement, et également aux représentants des familles. Voilà, donc pour les informer des mesures qu'on devait prendre.
Donc il fallait prendre des mesures envers les personnes qui sont à l'intérieur de l'EHPAD, et ensuite, eh bien, de prévenir toutes les familles qu'ils ne pourraient plus venir visiter leurs proches, les serrer dans les bras, leur faire un petit bisou, leur apporter un petit bouquet. J'ai vu qu'il y a eu de nombreuses manifestations en France de soutien aux EHPAD. J'ai vu que des fleuristes avaient offert des fleurs, que des restaurateurs avaient offert des repas. Et ça, c'est une très, très belle idée. Et je trouve que c'est bien de penser à nos aînés, de penser à... Si on est là, c'est grâce à eux. On a un héritage, un héritage bien entendu humain à respecter, non pas l'héritage financier ou matériel des choses, mais l'amour que nous a apporté nos parents, ceux qui nous ont conçus. Moi, je trouve que c'est absolument dommage. L'EHPAD n'est pas un mouroir, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Dans la mémoire collective, il y a des idées reçues, des légendes urbaines, en fait, des légendes urbaines qui traînent derrière tout cela. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne que l'on traite les EHPAD et les personnes concernées. Alors, on a vu qu'il y avait eu dans certains EHPAD des débordements. Comment vous qualifieriez-vous cela, de ces débordements de, on peut le dire, de maltraitance, puisque je crois que ça a été dit, sans citer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il y a eu des débordements. Moi, je me posais la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas au sein d'un EHPAD des personnes qui sont en mesure de pouvoir péter un plomb, quoi, carrément?
En temps normal ou plus spécifiquement sur la période...
Alors, en temps normal, c'est déjà tendu, parce qu'il faut quand même vivre, subir, digérer, enregistrer chaque fois ce qu'il se passe, ce qu'il se dit. Mais en plus, avec le confinement... du Covid-19, je pense que vous étiez quand même certainement sur une corde raide.
Alors, j'ai presque envie de dire, étonnamment, enfin, moi je regarde les deux mois qui viennent de s'écouler de façon très positive. Comme je vous le disais, je félicite, je remercie tous les jours le personnel dans la façon dont ils ont géré. Ouais, ils se sont comportés, ils ont géré cette crise à mes côtés. Parce qu'il y a eu cette implication, il y a eu cette réactivité, ils ont su faire ce que d'habitude ils ont énormément de mal à faire, hein, quand on demande à ce qu'il y ait plus de temps sociaux, en plus des soins. Alors oui, on ne va pas dire qu'il y a pléthore de personnel dans les EHPAD, ça serait mentir. Si les effectifs étaient plus conséquents, ben, on arriverait encore mieux à prendre en charge les résidents.
Plus de confort.
Exactement, plus de relations sociales.
C'est partout pareil.
Oui, c'est partout pareil. Donc voilà, ça, on peut le dire. Une fois qu'on a dit ça, je suis contente de vous entendre dire que dans les EHPAD, il se passe de très belles choses. La plupart du temps, c'est que les personnes qui viennent travailler en EHPAD, il y a derrière un véritable engagement. Ce sont des personnes qui...
Bien sûr.
Qui ont...
Il y a une motivation, il y a une passion. Et comme je le dis souvent, oui. La passion, c'est la force de croire. Ils font un travail que nous-mêmes, nous ne pourrions pas faire et nous ne voulons pas faire.
Tout à fait.
Parce que changer les couches d'une mamie de 90 ans, je sais qu'on se pose des questions. Et pourtant, cette mamie de 90 ans, elle a changé mes couches quand j'étais petit. Mmh. Elle a changé les miennes à moi. Elle m'a nettoyé, elle m'a lavé, elle m'a mis du mitosil, elle me mettait du talc, elle me mettait de la pommade, elle me mettait des crèmes quand j'avais le cul rouge. Et puis aujourd'hui, moi... Je me pose la question de savoir, est-ce que je serais capable de changer la couche de ma maman ?
Alors ça, c'est vrai que c'est propre à tout un chacun. Après, je me plais à dire, bon, c'est pas dans l'ordre des choses. Une maman qui s'occupe de son enfant en lui apportant des soins de confort, et à la fois c'est une nécessité, ça nous paraît tout à fait normal. Ensuite, lorsque nous, enfants, on doit se poser la question comment réagirait si on devait apporter ces soins-là, des soins d'hygiène, ça ne nous paraît pas naturel.
Moi, personnellement, ce n'est pas le problème naturel. C'est le problème de ne pas avoir été préparé à tout ça.
Oui. Oui, alors c'est pour ça que moi, j'évoque ça ne me paraît pas naturel. Et puis, il y a ce questionnement aussi. Il y a la pudeur, il y a l'intimité, ça, c'est nos parents. Vous voyez, c'est la maman... Oui, je dis, c'est pas dans l'ordre naturel des choses.
Je comprends bien, Valérie, je comprends bien.
Et c'est compliqué.
Alors, il est 14h20. Nous allons écouter une première chanson. C'est la première fois que vous l'entendez sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Cette chanson a été écrite. C'est un auteur-compositeur français qui s'appelle Alain Sylvain. Et cet Alain Sylvain vit apparemment, d'après les derniers renseignements que nous avons pris à la radio de l'Entre-deux-Mers, vit au Canada. Il a écrit une chanson absolument exceptionnelle, je dirais. Avec 40 ans de plus, on aurait pu dire que Jacques Brel aurait été capable d'écrire une telle chanson. Cette chanson, c'est « Nos aînés ». Écoutez bien les paroles de cette chanson, elle ne se veut pas triste, elle se veut réaliste. « Nos aînés ». Et après, nous allons attaquer avec un peu de sucre. Je vous souhaite une bonne écoute. Écoutez Alain Sylvain, et cette chanson n'est jamais passée à la radio de l'Entre-deux-Mers et n'est jamais passée sur tellement d'autres radios que nous sommes peut-être les premiers en France à le faire. Écoutez bien.
Les gens âgés écoutent la radio, mais on ne joue jamais des chansons pour eux. Ce n'est pas payant, on leur vend des calmants, des pilules désongants. Mais ce n'est que l'amour dont ils ont besoin comme médicament. Les gens âgés, on les a oubliés, tout au fond des foyers où les gouvernements les ont enfermés. Bien souvent, une fois par an, on viendra les visiter. Des parents s'est occupés. Une seule fois tous les ans, on viendra les embrasser. Ça oblige le jour de l'an. On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non. On sera un jour comme eux. Même riche à millions, on est tous des vieux, ce n'est qu'une question de temps, heureux ou malheureux, d'avoir eu des enfants. Les gens âgés ne parlent même plus, ils ont trop à dire, leur vie à raconter, qui va les écouter? ils se courbent le dos et regardent leurs pieds, se demandent pourquoi au bout du chemin ils sont arrivés. Ils ont tout donné, leur amour, leur santé, tout ça pour les enfants, ils ont tout sacrifié, même les rêves les plus grands. Et du fond de leur prison, ils relèvent parfois le front quand ils viennent pour signer. C'est quand vient la fin du mois et le chèque de leur pension qu'on fait semblant de leur donner. Les gens âgés ont le goût de pleurer, car ils ont tout le temps de renaître au passé, revivre leurs 20 ans. Ils n'ont rien oublié si leur dos a courbé. C'est qu'ils ont trop souvent porté les chagrins et les peines des enfants. Les gens âgés ont le temps de prier, car ils sont devenus au fil des années de simples enfants. Ils demandent au bon Dieu de parfois penser à eux, s'il a une minute ou deux. Ils demandent souvent à Dieu pourquoi il a oublié de venir fermer le vieux. On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non, on sera un jour comme eux, même riche à millions. On est tous des vieux, ce n'est qu'une question de temps, chaque jour que l'on vit nous rapproche du temps.
Un texte tellement réaliste, n'hésitez pas à téléphoner à la radio, on vous donnera les contacts, mais elle repassera certainement dans d'autres émissions. C'est vraiment une très belle chanson avec un beau texte. Nous sommes toujours avec Perlo Valérie, donc, qui est la directrice dénommée de l'EHPAD de Podensac. Nous avons parlé pendant une 20aine de minutes, on reviendra près d'elle. Et maintenant, je vais attaquer avec un Lot-et-Garonnais, M. Lucien Gergelin. Et je vais vous dire une chose, il a l'œil coquin. C'est un bougre que je connais depuis une 10aine d'années. Et c'est un homme absolument exceptionnel, un entrepreneur. Et on peut dire une success story qui a su s'investir, qui a su apporter. Et j'aimerais que, Lucien, donc, que tu viens de Virazeil, à côté de Marmande. Je crois que c'est à combien de kilomètres de Marmande ?
35 kilomètres à peu près.
35 kilomètres de Marmande.
Oui.
Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu ta success story. Alors, Lucien Gergelin, c'est un producteur de produits que nous aimons tous. Et Dieu sait, si on parlait des papis, des mamies, la confiture, c'est quelque chose d'exceptionnel. On aurait pu mettre la chanson des frères Jacques aussi, la confiture, ça dégouline. Raconte-nous un petit peu d'où tu es parti et où tu es aujourd'hui, Lucien, s'il te plaît.
Écoute, j'aimerais commencer par... J'ai écouté Valérie raconter son histoire. C'était quelque chose d'émouvant.
Tu as raison.
À quelque part, quand...
On a les larmes aux yeux parce
voilà,
que, je le répète encore, c'est émouvant. Il se passe dans ce studio. Nous sommes trois, nous respectons les normes de sécurité que l'on nous impose. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que l'on parle de ces personnes qui sont dans ces EHPAD. Et heureusement nous sommes en France, je le dis et je le répète, et je ne fais pas de politique, mais heureusement que nous avons des structures en France capables d'accueillir des personnes capables de s'occuper et capable de nous remplacer. Et merci à l'EHPAD de Podensac de votre investissement au quotidien, 365 jours par an. Il ne faut pas l'oublier, les anniversaires, les fêtes des mères, les fêtes des papas, les fêtes des grands-mères, les Noëls, les Nouvel An. C'est dur aussi, il faut préparer tout ça. Lucien, vas-y, exprime-toi.
Oui, pendant que le virus, on envoyait à pas mal d'EHPAD des produits, des compotes, des confitures.
Que tu fabriques.
Oui. pour remercier tous ces gens pour le travail qu'ils ont fait pendant cette crise, quoi, hein, et qui continue, quoi.
Bien sûr, tu es très ému, Lucien, je le comprends. Voilà. Je le comprends, donc tu as envoyé des...
Non, mais j'ai une raison d'être ému, bien sûr, comme beaucoup de gens, certainement, mais... Voilà, maintenant, écoutez...
On va parler de toi un peu.
Voilà. Alors, je vais essayer de parler de... raconter un petit peu ma vie de confiturier. Je n'étais pas du tout destiné à ma jeunesse à faire à fabriquer des confitures. Hein. Moi, je suis fils d'agriculteur. Et j'étais agriculteur moi-même. Hein. Bon, j'ai commencé... je travaillais chez mes parents et ma passion... Je rêvais d'être un champion cycliste. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pendant 13 ans, j'ai fait du vélo. Et je travaillais chez mes parents. Et puis un jour, j'ai arrêté à 30 ans.
Et je me rappelle d'ailleurs, en voiture avec toi, en redescendant ou en montant à Paris, tu as décroché ton téléphone et quelques minutes après, Bernard Hinault décrochait le téléphone.
C'est vrai.
Et nous étions en direct avec Bernard Hinault, le blaireau, comme on l'appelait.
Tout à fait.
Cinq Tours de France.
Tout à fait. J'ai rencontré Bernard Hinault pour le Tour de France d'avenir à Marmande. Je ne connaissais pas du tout Bernard Hinault. C'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné. J'ai passé 3 jours avec lui, exceptionnel, quoi. On a pu parler de vélo, bien sûr. Et puis,
bien entendu.
Et puis mes origines sont... Je suis d'origine bretonne, à quelques dizaines de kilomètres où était Bernard Hinault.
D'accord, donc ceci explique cela.
Qui nous rapproche encore plus, quoi.
Alors, agriculteur, fils d'agriculteur, travaillant donc dans le contexte familial, tu décides de prendre ta liberté ?
Oui, j'ai compris que le vélo, c'était pas un métier pour moi, qu'il fallait que je fasse autre chose. J'ai acheté une petite propriété de 10 hectares et je me suis mis à faire des cultures légumières dans la région de Marmande, avec des tomates, des fraises, des poivrons, enfin tout ce qu'on peut trouver, quoi.
Dans le sud-ouest ?
Dans le sud-ouest, oui, bien sûr. Je me suis vite rendu compte que le travail de la terre, c'était quand même quelque chose qui n'était pas rentable comme je souhaitais. Et là, j'ai décidé de transformer mes produits, quoi.
D'accord, donc la rentabilité n'était pas au rendez-vous, mais ça, c'est pareil pour tous les agriculteurs, je crois.
Oui.
Tous les maraîchers aujourd'hui, avec le Madine espagnol, le Madine partout, les prix, c'est une catastrophe. Et on soutient également tous les agriculteurs de nos territoires, de nos terroirs. On vous soutient du plus profond de notre cœur à la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Vous faites partie de ce que nous mettons dans notre corps. Quand on mange quelque chose, on le met dans notre corps. Et ça, c'est important. Donc tu décides de transformer ces produits.
Oui, moi je pense que les agriculteurs ont participé à nourrir la France à une période de crise, comme nous aussi industriels l'avons fait aussi. Hein,
industriel, artisanal quand même. Hein.
Oui, aujourd'hui on se situe plutôt... Oui, artisanal.
Tu as combien d'employés, Lucien ?
Aujourd'hui j'ai 220 employés plus 80... saisonnier, à peu près, ce qui fait 300 personnes à l'année, quoi.
Et oui, donc c'est une véritable entreprise.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'on est plutôt aujourd'hui, on n'est plus dans le stade artisanal, on est plutôt industriel, il faut s'équiper.
Oui, mais en respectant les normes artisanales.
Tout à fait, on n'a rien changé à notre fabrication. On est toujours resté avec une cuisson au chaudron, ancienne, quoi. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé. Je commençais avec deux petites bassines, deux trépieds, deux bouteilles de gaz, une douche. Et je suis parti, je vais raconter un petit peu ça, parce que si j'ai envie de raconter, c'est pour dire à des jeunes qui ont envie de se lancer qu'il faut...
Ça, c'était dans quel
C'était en 83.
83.
Voilà.
Donc, oui, donc il y a 37 ans.
Voilà. C'est pas hier, mais enfin bon, pour moi, c'est comme si c'était hier.
Tu avais quel âge quand tu as commencé à être indépendant comme ça ?
J'avais 32 ans.
32 ans. Et le courage et la volonté d'avancer. Donc 32 ans, tu crées ta première unité de production et de transformation de produits.
Oh, si on peut appeler ça une unité de transformation. Je fabriquais, puis j'allais vendre je fabriquais quelques confitures, quelques pots de confitures, quelques centaines de pots de confitures que j'allais vendre sur... Dans les boutiques, j'ai toujours cru que j'avais envie de faire du commerce, quoi.
D'accord.
Voilà. boutique sur Bordeaux, sur la côte, sur Toulouse, et puis après je suis parti sur Paris, vendre aussi mes produits. Enfin, c'était 7-8 ans de galère avant. Je raconte mon histoire. Hein.
Mais oui,
j'en ai pas 36, enfin j'en ai qu'une. J'ai l'impression toujours de dire la même chose, mais.
Mais non, pas du tout, parce que les auditeurs la découvrent, ton histoire.
Voilà, certains la découvrent, oui. Voilà, bon, c'était 7-8 ans de galère parce que. Aucun banquier ne pouvait me faire confiance parce que, vous voyez bien, personne n'y croyait quoi, dans, à mon histoire. Quoi, hein. Et puis un jour, il y a un banquier qui m'a prêté 100 000 francs à l'époque. Hein.
100 000 francs, c'est-à-dire 15 000 euros.
Voilà, c'est ça. Hein. J'y croyais pas parce que ce monsieur... J'aime bien raconter des histoires. Je dis il faut se trouver au bon moment,
au bon endroit
quand il faut. Hein,
et, avec la bonne personne.
Voilà, c'est ça. Et ce monsieur partait sur la côte, le directeur de cette agence de bancaire. Bon, je la cite, c'est la Caisse d'Épargne. Hein.
On peut la citer, il n'y a pas de problème.
Oui, oui. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Et... il m'a fait confiance parce qu'il m'a dit, écoute, vous ne me connaissez pas, moi je connais vos confitures, parce que tous les week-ends, il partait au lac de Maguide vendre, dans une caravane qui allait là-bas, il passait ses week-ends là-bas, et il achetait mes confitures à pied de boutique.
Du coin
du camping, quoi.
Voilà. D'accord.
Je vendais peut-être 40-50 pots dans l'année, quoi. C'est là que je dis que... il faut se trouver au bon moment, au bon endroit, quand il faut. Et ce monsieur, quand il me reçoit, il me dit que quelque part qu'il me connaissait, enfin qu'il connaissait mes produits et qu'il croyait dans ce que j'avais fait, ce que je faisais, parce que mes confitures de fraises, c'est la fraise qu'il achetait, étaient tellement bonnes. Il me dit, moi, je sais que vous allez réussir. Et puis voilà, c'est parti avec ces 15 000 euros ou 100 000 francs à l'époque. J'ai pu faire des stocks et puis trouver beaucoup plus de clients. Et c'est comme ça que l'entreprise est partie. Puis après,
Est-ce que tu l'imaginais que ça allait arriver à 200, 280, 260 employés? Est-ce que tu l'imaginais ça dans ta tête?
Vous savez, on est un peu... non, pas à ce niveau-là, mais j'ai toujours cru que je ferais quelque chose, quoi.
Hein,
parce que tout le monde me disait que je faisais des confitures qui étaient de qualité, quoi. Alors tu te dis, mais enfin, un jour, il y a bien quelqu'un qui va croire dans ce que je fais, quoi. Et puis c'est arrivé, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, on en est là.
Ça représente combien de pots de confitures par an?
Aujourd'hui, on doit faire 40 et quelques millions de pots, quoi.
40 millions de pots de confitures par an? Tu as développé également une gamme de produits sucrés autres que la confiture. Raconte-nous un petit peu, cuit au chaudron également aussi, des bonbons, des produits salés également, puisqu'il se passe quelque chose le lundi, le mardi, le mercredi, même le dimanche, il y a le pâté du dimanche.
Oui, tout à fait. Quand je suis parti à Paris, j'ai vu dans les épiceries fines des marques comme Fauchon, Idiard, Ménès, qui étaient des gens qui fabriquaient des produits qui avaient une belle étiquette. Voilà. Je me suis dit, à quelque part, si tu réussis, je ferai la même chose qu'eux, mais c'est moi qui fabriquerai tous ces produits. Parce que ces gens-là...
Sous-traités,
voilà. Et je ferai un produit de qualité comme on sait faire à la campagne, puisque
bien sûr.
On faisait la cuisine du cochon, on faisait les confitures, j'aidais ma mère à faire les confitures, vous voyez un petit peu, il y avait déjà des bases à quelque part. Quoi, hein. Et le jour que les choses ont été bien, je me suis mis à développer autre chose.
À diversifier un petit peu.
Tout à fait, c'est vraiment ce qui aide beaucoup l'entreprise aujourd'hui. À être connu comme ça, quoi. Aujourd'hui, on est en toute la France.
En marque propre, tu es dans toute la France.
Oui.
En marque...
distributeur, on a pas mal d'enseignes. Avec
combien d'enseignes?
On doit avoir... on n'a pas tous les produits, mais on doit avoir 5 enseignes avec qui on fait de la marque distributeur.
5 enseignes.
Voilà.
Qui sont ces enseignes?
Difficile à dire, peut-être, non?
Non, on peut le dire, il n'y a pas... Enfin, sauf si ça te gêne.
Non, bon, chez Leclerc, bien sûr.
Donc tu fais les produits marque Leclerc?
Non, Jure et Talent. Hein. On fait aussi pour quelques produits pour Intermarché, pour Carrefour, pour Monoprix, pour Lidl aussi. On fait quelques produits aussi. Voilà, quoi.
Donc il y a des produits qui sont aux marques distributeurs qui sont fabriqués par Lucien Gergelin.
Tout à fait.
Ça aussi, c'est une success story. Oui. Il ne faut pas le négliger. Quand vous achetez certains pots de confiture en marque repère, comme on dit... Mmh. Eh bien, c'est des produits qui sortent de Viraseille.
Une partie, oui.
Alors, tu fais également des produits de petit-déjeuner.
Oui.
Tu as racheté une usine.
Voilà, on a repris une usine qui est en difficulté à Villeneuve-sur-Lot. C'est une usine qui fait des céréales. Et je trouve que c'est quelque chose qui collait bien avec les produits petit-déjeuner qui est la confiture. Voilà, c'est une usine où qui est en difficulté hein, quand on l'a repris. Aujourd'hui, on est en train de la remettre sur pied. Ça fait 2 ans que la reprise. C'est un peu long, mais enfin, on va y arriver.
C'est bien ça. Mmh. Elle est à Villeneuve-sur-Lot, cette société. Oui. Mmh. Donc, tu as repris cette société, tu as recadré un petit peu tout ça. Elle avait des difficultés. Donc, c'est un Français, c'est un homme de terroir qui est venu sauver, tendre la main à une entreprise et prendre des risques pour cette entreprise et pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.
Oui, c'est une entreprise allemande qui avait des difficultés, qui a recédé voilà. Oui. Mais écoutez, on fait tout pour la sauver. Hein. On fait tout parce que c'est... Je suis un compétiteur, je ne veux pas perdre. Je dis ça comme ça.
Non, mais tu es un compétiteur, j'entends bien, Lucien, j'entends très bien. Tu es surtout un homme humain. Et l'être humain, c'est le cœur, je dirais, de tout. De tout. Tu es un humain, je t'ai emmené très récemment sur une émission de télévision, même si le passage est court, il fait quelques poignées de minutes, à télé-shopping. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de partager pendant ces 2 jours, entre la répétition, le tournage. On se retrouve à discuter, à mieux se connaître aussi, mais à savoir que Lucien Gergelin, je vais vous dire une chose, c'est un cœur et 2 jambes. On envoie un morceau de musique, on va revenir papoter un petit peu avec mademoiselle Valérie Perlot. Nous allons continuer de parler des personnes qui sont en EHPAD en règle générale, mais plus particulièrement celui de Podensac, puisque c'est celui qui nous intéressait. Nous allons envoyer, et le maestro va nous envoyer une chanson qu'il a sélectionnée lui-même. C'est Francis Furpaint, le président de cette radio, la radio de l'Entre-deux-Mers, 98.4. Et depuis Sauveterre de Guyenne, en direct, dans l'émission C'est beau, c'est bon, avec Valérie Perlot de l'EHPAD de Podensac, Lucien Gergelin, fondateur, créateur, innovateur, sauveur, bouée de sauvetage, bref, il est tout cet homme-là, il est tout. Et l'avenir est sucré. On va écouter un morceau de musique eh bien, qui est né pendant cette période de confinement. Allez, monsieur le président, je te demanderai d'envoyer le morceau de musique que tu nous as sélectionné après avoir écouté la chanson des papis et des mamies.
À tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su.
On fait comme si tout n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on peut. Quand vient la nuit, on ferme. Ce monde était encore heureux.
On aimerait que cette chanson serve à quelque chose. Alors on a décidé de verser tous nos droits et toutes les recettes de cette chanson qui sera disponible jeudi au personnel soignant.
Des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignants, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés. Mais leur propre raison ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies.
enfin voilà, tous ces gens-là qui sont pour moi des vrais héros. Alors j'avais envie de partager cette chanson. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne.
On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci.
J'avais envie d'écrire sur les gens qui s'occupent de nous. Ces anges en blouse blanche, au dévouement sincère, qui remettent à l'endroit nos âmes de travers.
Pour que la vie qui nous rassemble renaisse de ses cendres. Et toi, chante avec moi, vivement là.
Excusez-moi, j'étais dissipé par effectivement ce que nous étions en train de dire sur le plateau, mais j'écoutais ce pot pourri de chanteurs et d'artistes qui se sont mobilisés et qui ont fait tous les droits, bien entendu, pour ces héros. J'aime bien le mot héros, effectivement. Vous êtes des héros et nous en avons une devant nous, Valérie, qui est une hérote. Valérie, donc, vous êtes à Podensac, vous l'avez compris, je le répète, 273 lits, 220 personnes qui travaillent en collaboration, elle en est la directrice déléguée, et nous avons parlé, nous avons évoqué leur quotidien, et ce quotidien, est-ce qu'il a changé depuis qu'il y a eu le déconfinement en début de semaine? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 11 mai?
Alors,
Moi, j'ai dit que c'était une date mal choisie, parce que 11 fait chier.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 mai? Alors, le déconfinement tel que nous, on le connaît, n'est pas tout à fait le même pour les résidents des EHPAD. Les EHPAD restent fermés. Les sorties exceptionnelles restent suspendues. Alors, il y a des choses qui avancent quand même pour les résidents. Donc, depuis 3 semaines à peu près, on a mis en place à Podensac, comme c'était demandé par le gouvernement, les visites dérogatoires. Donc les familles sur rendez-vous peuvent venir visiter leurs proches. Donc au regard de la taille de l'établissement, malheureusement, on ne peut pas proposer plus d'une visite par quinzaine, hein, parce que 273 résidents, 273 familles.
Bien sûr.
Voilà, comme c'est sur rendez-vous, dans des conditions très particulières, en dehors des unités habituelles d'hébergement. Voilà, ça nécessite là aussi un peu beaucoup de réorganisation du personnel administratif et aussi soignant. Donc on se prête au jeu bien volontiers parce qu'on a vraiment conscience de l'importance de rétablir cette relation entre le résident et les proches. Mais on doit quand même toujours veiller à leur protection, à la protection de tous. Et c'est pour ça que ces visites-là sont très encadrées. Donc il y a toujours ces visites dérogatoires. Pendant cette période de confinement, on n'a pas fait de nouvelles admissions. Lorsque des places venaient à se libérer, d'ordinaire, on admet.
Je sais, donc il a été demandé aux EHPAD de ne pas faire rentrer de personnes pendant, voilà. S'il y avait eu un décès, par exemple, une chambre qui se libère ou un lit qui se libère, on peut le parler, on peut le dire, c'est la vérité.
Oui, oui.
Donc le principe est de reprendre une personne pour prendre la place de celui qui est parti, bien entendu, il n'y a pas de honte à parler de cela. Donc, il ne fallait pas que les personnes viennent de l'extérieur pour des raisons évidentes, sanitaires et risquant de pouvoir apporter le Covid-19.
Le COVID, oui, voilà, surtout. Alors, des admissions sur deux motifs particuliers, notamment des sorties d'hospitalisation, donc pouvaient avoir lieu, mais elles nécessitaient la mise en place d'un confinement de 14 jours en chambre. Donc, c'est pas de cette façon qu'on aime accueillir les résidents. Non, si on veut faciliter l'intégration, c'est pas en confinant quelqu'un en chambre. Mais là, la situation faisait qu'on n'avait pas le choix. Donc ces visites-là les admissions ont été suspendues.
Elles sont toujours suspendues pour le moment?
Aujourd'hui, elles sont suspendues, mais les critères d'admission sont élargis. Donc on va pouvoir reprendre, là, ça fait nous, depuis la semaine dernière, on a repris les admissions. Donc on va accueillir une personne cette semaine, et puis on en accueillera une autre la semaine prochaine. Donc les admissions évoluées, il y a toujours les visites. Ensuite, voilà, les évolutions, elles se situent pour l'instant uniquement là, au niveau des EHPAD. On est toujours très, très, très prudent au niveau des...
Au niveau des admissions, est-ce qu'il y a une limite départementale, régionale ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on privilégie les gens du coin, du quartier, de Podensac, de la rive droite, de la rive gauche de...
Alors, pas forcément. Le critère de la proximité géographique, il est étudié, mais il n'est pas excluant. Tout va dépendre du dossier. Si, je ne sais pas, il y a la personne vit à Paris... Ça pourrait être Lille, hein, il n'y a pas de lieu particulier. Donc on a une demande d'admission de Paris ou de Lille, mais qui va se justifier parce qu'il y a un proche très présent qui habite dans la région. On va pouvoir admettre cette personne-là.
D'accord, voilà. Très bien.
On essaie, quand on étudie les dossiers d'admission, on s'intéresse à l'entourage familial. C'est important. Il y a un accueil en EHPAD, mais l'accueil en EHPAD ne doit pas priver... la personne de ses relations proches, que ce soit un cercle d'amis et ou la famille. Parce que bien parfois, sûr. Il y a des personnes qui n'ont plus de famille, mais il y a quand même des neveux, nièces ou des voisins qui s'occupent beaucoup d'eux. Donc, on ne veut surtout pas rompre ce lien-là, qui
d'accord.
est important.
Le coût d'un EHPAD, est-ce que c'est trahir un secret que de dire un EHPAD, ça coûte tant par mois
Ça coûte cher.
Oui, d'accord.
Oui, alors ça dépend si on est en chambre simple ou en chambre double, mais il faut compter...
Enfin,
il faut compter 2300 euros.
2300 euros, oui. Tout en sachant que les résidents ont quelquefois des aides de la part du conseil général, conseil régional. Donc même s'ils ont une retraite qui est un peu légère, ils ont une aide considérable.
Alors oui, pour les résidents qui ne sont pas en capacité parce que leur retraite est trop faible et qui ne peuvent pas payer ce prix-là, on a le département instruit des dossiers, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'aide sociale.
D'accord.
Voilà.
Qui vient faire le complément, quoi.
Qui vient faire le complément ou qui peut carrément parfois prendre l'intégralité en charge.
D'accord. Ouais. Est-ce que quelquefois ce sont les familles qui souviennent aussi à la différence ?
Oui, tout à fait.
Les enfants, les...
Oui, puisqu'il y a, en France, il y a l'obligation alimentaire hein, des enfants à l'égard de leurs parents. Et
j'en
du coup,
parle. Et c'est très, très bien, ça.
Oui, parce qu'il faut de la solidarité.
Exactement, de la solidarité,
tout
de la fraternité.
Fait.
Et on nous a élevés, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas aller jusqu'au bout du chemin avec ceux que l'on aime. Donc ça, c'est important. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, à la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4, nous voulions rendre hommage à ces personnes... qui se dévouent, parce que c'est du dévouement. Vous me direz, oui, mais il y a un salaire. Oui, bien entendu, il y a un salaire. J'entends très bien. Ces personnes sont salariées. Mais quand même, essayez d'imaginer le quotidien de ces personnes. Moi, je peux vous le dire, puisqu'à titre personnel, ma maman, je l'ai eue pendant des années. C'était un enfer. Un enfer pour elle et pour moi, et pour notre famille. Parce qu'on ne comprenait pas, on était énervés, elle s'énervait, on s'énervait aussi. On était sur un terrain glissant. On faisait des dérapages non contrôlés. La maison n'était pas habilitée à recevoir une maman de 90 ans prête à faire une bêtise. Il y a deux chiens dans la maison en plus, les chiens qui sont un peu nerveux, qui sont un peu péchus, donc auraient pu faire tomber ma maman. Donc on était bien content de... Enfin, bien content. Sécurisé, parce que vous, en mettant une maman dans un EHPAD ou un papa, on devient sécurisé. On se dit, waouh, on peut dormir tranquille. Bien entendu que c'est pas simple. C'est pas simple de voir partir une maman, un papa, d'être obligé de leur dire, ben voilà. Alors qu'avant, on se posait pas la question. C'était vraiment dans la tradition. Mmh. Dans la tradition bien française, de père en fils, les vieux mouraient sur le lieu même où ils avaient élevé leurs propres enfants, que ce soit une maison, un appartement ou une ferme ou un lieu de production de quelque chose. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose. Donc je suis vraiment très fier de vous recevoir et je vous demanderai de transmettre
ça sera fait.
À tous les collaboratrices et à tous les collaborateurs de votre EHPAD l'amour que nous avons pour eux, la reconnaissance que nous avons pour eux. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un épisode inédit pour que l'on s'aperçoive de cela. Il a fallu qu'il y ait le Covid-19, avec ses effets négatifs, eh bien, nous a apporté du positif aussi, en nous ouvrant les yeux, en nous donnant la possibilité de dire « Mais bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est vrai, ça ? Mais c'est vrai. » Alors, je m'adresse aux Parisiens, c'est pas la peine de quitter la capitale en catastrophe pour aller à l'île de Ré ou l'île d'Oléron, hein. restez chez vous, c'est important. On est déconfiné depuis le 11 mai, moi je continue toujours et je me trouvais en sécurité en remplissant mon petit papier tous les jours quand j'allais chercher mon pain à la boulangerie, en prenant ma pièce d'identité, ben j'avais l'impression d'avoir retrouvé une certaine liberté surveillée, certes c'est vrai, mais indispensable. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, ça m'a ouvert les yeux. Je suis quelqu'un de simple, de généreux par nature, mais ça m'a ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur vos professions. Ce ne sont pas des métiers, ce sont des professions de foi. Et vraiment, Valérie, je tiens à vous embrasser de la part de tous les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers, je le répète, parce que vous avez fait un travail formidable et vous continuez de le faire. Et pour ce faire, il faut prendre des petits déjeuners le matin. Et le petit déjeuner, qui dit petit déjeuner, dit tranche de pain grillée, biscotte, chacun y va de son. Mais la confiture, il n'y a pas d'âge.
Non.
Il n'y a pas d'âge. J'aimerais poser une question à Lucien. Lucien, combien as-tu de variétés de confitures traditionnelles avec des fruits que tu transformes directement dans ton unité de production ?
Quelques 150, mais qui sont multipliés par différentes marques que nous fabriquons. C'est-à-dire qu'il y a 1700, entre les confitures et d'autres produits, c'est 1700 produits que nous avons dans l'entreprise.
1700 produits en fabrication. Est-ce qu'il y a des jours réservés à des fabrications spécifiques ?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des parfums qui partent plus que d'autres ? C'est évident.
Oui, oui, c'est toujours sur la confiture, toujours l'abricot et la fraise qui partent.
Qui partent. Sur les 40 millions de pots, tu as une idée du nombre de pots de fraises et d'abricots, non ?
Ah, j'ai pas réfléchi à ça avant.
T'as pas ça, pas ça, c'est pas grave.
Mais
c'est grave,
non, c'est grave. Ça représente, on est toujours sur les règles des 20-80, quoi. Hein.
20-80, d'accord.
Ça veut dire que sur 20% des variétés, on fait 80% de notre chiffre d'affaires. Quoi.
De chiffre d'affaires, d'accord. Mmh. 260-280 employés avec les saisonniers, presque 300 personnes. Mmh. L'unité de production, c'est combien de mètres carrés ?
C'est 20 000 mètres carrés.
De bâtiment ?
De bâtiment, voilà.
Quels fruits achètes-tu sur place ? Alors, avant de parler des fruits, je veux parler d'un truc, là. Vous savez, il y a une marque mondialement connue qui fabrique une pâte avec de l'huile de palme que les Italiens raffolent. Mais nous, en France, on a un mec, un type, un homme, un vrai, qui a un cœur avec deux jambes. Il fabrique une pâte à tartiner avec 47% de noisettes et sans huile de palme. Alors, je vais te dire un truc, j'ai mis le nez dedans hier soir, j'ai failli bouffer le pot. Une tuerie, 47% de noisettes en provenance du Lot-et-Garonne. C'est-à-dire qu'on valorise le terroir 47 du Lot-et-Garonne avec des noisettes que tu vas chercher sur le terrain. Donc tu fais fonctionner le local, tu fais fonctionner des entreprises locales. Donc quand tu dis que tu as 280 employés, il y a pas mal de personnes qui travaillent pour toi. Qu'est-ce que tu achètes dans le local, dans le 47 ou dans le sud-ouest de la France, en dehors des noisettes ?
Alors, moi je suis très attaché au Marmandais. L'Et-Garonne et le sud-ouest. Hein. Alors c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire valoir la production de chez nous. Quoi, hein. C'est pour ça que, à quelque part, on a lancé cette pâte à tartiner aux noisettes de l'Et-Garonne.
C'est une tuerie, ce truc-là.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, on a travaillé sur la tomate de Marmande. Tomate de Marmande, en train de développer quelque chose. Tomate de Marmande, c'est quelque chose qui était tombé à une époque où il devait y avoir 8 ou 10 usines de transformation de tomates conserves. Depuis 35 ans, 40 ans, il n'y a plus eu aucune usine. Et là, aujourd'hui, on est en train de relancer la conserverie de sauce tomate.
D'accord. Donc, bientôt dans vos rayons, et peut-être déjà fait, de la tomate du Marmandais, c'est important. Vous l'avez compris, on a passé d'une heure pour parler avec des gens qui sont passionnants, des gens passionnés, des gens que nous aimons. Donc il y avait Valérie Perlot de l'EHPAD de Podensac, que nous remercions d'avoir fait le déplacement. Vous transmettrez à vos collaborateurs, collaboratrices et bien entendu à tous les résidents l'amour que l'on leur porte. Remerciez Lucien Gergelin de Visareille. N'hésitez pas, vous pouvez vous arrêter auprès de l'usine. Il y a une boutique de concert, une boutique de vente.
J'ai moi associé tous mes collaborateurs qui sont venus travailler pendant pour fournir
pendant la période de confinement
les magasins.
Lucien remercie tous ses collaboratrices et ses collaborateurs qui ont travaillé pendant la période de confinement pour pouvoir alimenter les zones de chalandise. Merci Lucien Gergerlin d'être venu. Arrêtez-vous sur son usine, il y a une boutique de vente à emporter. Vous allez vous régaler, vous allez déguster, vous allez partager. Et puis lorsque vous arrêtez chez Lucien Gergerlin, après vous allez à l'EHPAD et vous distribuez à vos papis, vos mamies, eh bien des pots de confiture et de noisettes chocolatées à base de produits du sud-ouest de la France. On vous fait des bisous, on vous fait des câlins, on vous aime, vous êtes sur 98.4. Merci au président, monsieur Francis Wirpin, de cette radio. On vous souhaite un excellent week-end et merci de nous rester fidèles.
Sauve des vies qui jouent des nuits sans un répit, se tiennent debout pour la France.